On en parle aujourd'hui parce que dans le contexte de la fête de la science, le thème c'est raconter la science, imaginer l'avenir. Donc, étant donné que c'est un travail avec des grandes sections, où on leur a demandé justement d'imaginer l'avenir et d'imaginer un monde sans poubelle. Voilà, on est bien dans ce contexte-là. Et ce que je vais vous présenter là, c'est une réflexion qui suit un travail de mémoire de Master 2, qui s'appelle Pratique et ingénierie de formation, avec la mention formation de formateur en milieu scolaire, qui est donc avec mon directeur de mémoire, Florian Huître, qui est là. Alors, le fait de travailler déjà sur les déchets, c'est un problème qui me tracasse depuis un petit bout de temps. Au préalable, j'étais animatrice en environnement. Un environnement maritime, et j'aimais particulièrement travailler sur les laisses de mer. Donc, ce sont les rubans d'algues qu'on trouve sur la plage dans lesquels il y a plein de déchets. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout les rubans d'algues et tout ce qu'on trouve dedans et qui permettent, à pied sec, sans enfiler une combinaison de plongée, d'avoir accès à la vie sous-marine. Donc voilà, découvrir des choses qu'on ne peut pas voir sur l'estran, mais dont on trouve quand même une trace sur la plage. Et puis bon, à force de chercher ces traces de vie sous-marine, on tombe quotidiennement sur des choses qui ne sont pas forcément des traces de vie sous-marine, mais plutôt pas mal de déchets. Et on finit par plus voir les déchets que les traces de vie. Donc ça a été un premier essor. Et le deuxième point, c'est le ramassage qui est fait de ces déchets sur la plage. Pour nos touristes, hein, sur la côte de Nacre, on est obligé l'été, pour avoir des plages accueillantes, de ramasser les algues avec les déchets qui sont compris dedans, et on enlève tout. Donc même la vie qui est les algues qui sont un milieu de vie pour énormément d'insectes, l'origine de la faune, de la flore, la naissance des dunes, de la protection du littoral, tout ça part avec le ratissage qu'on fait, parce qu'il y a des déchets dedans. Donc ça, c'était un premier point. Et puis ensuite, je suis devenue enseignante. Et ce qui était fait au préalable en tant qu'animatrice, j'ai souhaité continuer à le faire en tant qu'enseignante. Mais là, il y a quand même un changement de posture à adopter. Déjà, en tant qu'animateur, on est prié d'avoir une certaine neutralité et de ne pas être dans l'injonction auprès des enfants qu'on accueille sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et là, c'est en tant qu'enseignante, on doit encore plus être dans un objectif de former un citoyen libre et éclairé et de l'amener à réfléchir plus qu'à obéir à des injonctions. Donc une première étape avec une première classe enseignante débutante a été de travailler via une classe d'eau avec des élèves de CE1, CE2 sur le trajet que font les déchets, de comprendre que le déchet que j'abandonne en ville risque il y a de grandes chances de se retrouver au bout du compte sur la plage ou en mer. Donc déjà, le travail sur les déchets. L'idée, c'est de comprendre si je l'abandonne là, je le retrouve en mer. Alors, il y a des noisettes à la plage, on se demande un peu ce que ça fait là. C'est un moyen pour amener les élèves à réfléchir à ce problème. Si on leur explique tout simplement, si tu le lâches, tu vois, le déchet, il va suivre le fleuve et il arrive, ok. Là, les élèves les plus scolaires vont écouter soigneusement ce qu'on leur dit. Par contre, il y a une bonne moitié qui va. La maîtresse, qu'elle me raconte, j'en ai pas grand-chose à faire. Par contre, dans l'autre sens, si on constate sur la plage qu'on trouve des noisettes et qu'on leur demande d'où viennent ces noisettes, on commence à se poser la question. Là, ils sont peut-être un peu plus intéressés sur le fait de chercher pourquoi on trouve des noisettes sur une plage. Tout simplement parce que la noisette, elle était sur le continent, elle est tombée du noisetier, par l'eau elle a été transportée, elle s'est retrouvée dans le fleuve et elle est arrivée en mer, elle s'est retrouvée sur la plage. Exactement le même déchet, le même chemin que les déchets. Donc, d'où cette interrogation, enfin, cet objectif d'amener les élèves à s'interroger sur le fait de pourquoi on retrouve des noisettes sur la plage. S'ils ont compris ça, ils ont compris que de la même façon on retrouve les déchets et que donc le déchet on le met à la poubelle pour éviter qu'il soit sur la plage. Voilà le raisonnement. Ça, c'était une première étape. Et puis, quelques années plus tard, j'ai voulu retravailler sur le même sujet avec des élèves, mais c'est vrai, là, c'était des élèves de grande section et de CP. Ok, c'est bien hein, d'amener les enfants à se dire qu'il faut mettre les déchets à la poubelle, c'est sympa, mais les enjeux ne sont pas là, enfin, ils ne sont plus là, et on en est plutôt à essayer de réfléchir à comment réduire nos déchets. Donc, l'objectif était plutôt d'amener les élèves à réfléchir sur leur production de déchets. Et donc là, on les a amenés à réfléchir à ce que pouvait être un monde dans lequel il n'y avait pas de poubelle. La question posée, on va prendre le temps de définir quelques termes pour être bien d'accord sur ce dont nous parlons. Donc, il y a l'aspect développement durable, qu'est-ce que l'on entend derrière, ce que l'on entend sur les déchets et la production de déchets, et enfin le fait de problématiser. Alors, sur le développement durable, vous connaissez sans doute cette représentation avec trois cercles qui s'entremêlent, avec donc qui sont les trois piliers écologique, social et économique. Et normalement, ce qui est durable, c'est ce qui est au centre et qui fait que c'est ce vers quoi nous sommes amenés à attendre. Seulement, il y a des auteurs qui le remettent un petit peu en cause, avec donc notamment Lucie Sauvé qui s'interroge en se disant ok, on a le pilier écologique, la société, l'économie, donc exprimé comme ça, ça veut dire que l'économie ne fait pas partie de la société. Mais déjà là, on peut un petit peu s'interroger sur le fait que l'économie ne fasse pas partie de la société. Bon, elle continue l'exemple, elle le pousse en se disant qu'il y a aussi des modèles à quatre piliers, avec la culture comme quatrième pilier. Donc là, à nouveau, ça veut dire que si on a un pilier de la culture, ça veut dire que la culture ne fait pas partie de la société. Donc là, ça devient quand même un peu compliqué d'avoir une société dans laquelle il n'y aurait pas de culture. On continue, il y a le modèle à cinq piliers avec le politique. Donc là, dans la société, il ne nous reste plus grand-chose pour faire société. Il y a plus l'économie, plus la culture, plus la politique. Donc si on caricature un peu, si on pousse, hein, c'est le raisonnement de Lucie Sauvé, qu'est-ce qu'il reste? La société, c'est une somme de consommateurs et un paquet de main-d'œuvre. Voilà, et on est l'un ou l'autre. Donc bon, ça interroge un petit peu sur le modèle. Donc si on veut, voilà, pour synthétiser la pensée de Lucie Sauvé, du coup, on peut revenir à un modèle à deux piliers, avec tout simplement la société, l'écologie, et le but du jeu, c'est de réfléchir à comment la société peut vivre sans nuire, sans détruire son environnement. Donc, un deuxième auteur, Francine Pello, elle a une représentation plus dynamique. En fait, en noir, c'est le signe infini, pour montrer qu'on est sans arrêt en questionnement. Donc, on questionne en permanence. Alors, elle conserve les trois piliers, hein, l'écologie, l'économie et le social. Ces trois fondements sont en permanence pensés par les acteurs sociaux et on les pense dans un espace et dans un temps donné. Donc un petit espace, un petit temps ou un espace très vaste, un temps très vaste, un autre endroit, un autre moment. Et on est sans arrêt en train de re-questionner ces trois piliers. Alors nous, du coup, ce qu'on a pris un peu, si on fait une synthèse de ces deux visions, on l'a résumé ainsi, en reprenant la vision dynamique de Pello et en enlevant le pilier économie. Donc on est sans arrêt en train de réinterroger la société envers notre environnement, l'écologie, comment on peut accorder l'ensemble dans un espace et un temps donné. Donc voilà, ok. Là, c'est le développement durable, mais le but du jeu, ça va être de le faire passer à des élèves. Donc c'est de l'éducation au développement durable. Et on en fait dans les classes. Mais on a un peu de mal à en voir les effets. Donc certains auteurs, dont Michel Fabre, ont repéré cinq ruptures épistémologiques, cinq éléments qui sont difficiles à surmonter, pour lesquels il faut vraiment changer de mode de pensée pour pouvoir comprendre le développement durable. Tout d'abord, il y a par exemple la notion de temps. Avoir une vision dans le temps qui est plus ou moins longue. On peut prendre par exemple le problème des rejets de CO2. Okay, pour la production d'énergie, on dépense dans l'air du CO2. Bon, on peut passer au tout nucléaire et on va résoudre le problème des émissions de CO2. Par contre, dans le temps, à long terme, ça va nous poser d'autres difficultés. Donc, il faut bien avoir une vision dans le temps. On a aussi le problème d'espace. Très bien, pour nos histoires de carburant, restons sur cet exemple-là, on va peut-être avoir des biocarburants. Dans ces cas-là, on va les faire pousser ailleurs. On va importer des biocarburants à des endroits où, du coup, il n'y aura plus d'espace disponible pour produire de la nourriture. Donc, ça va poser d'autres problèmes par manque d'espace. Sur la matière, Un exemple, par exemple, pas l'exemple le plus pertinent, mais c'est le seul qui me revient en tête. Par exemple, quand on donne les indications de temps de décomposition des déchets, la bouteille de plastique, alors je ne sais pas combien de temps c'est annoncé, parce que ces chiffres-là, je ne les trouve pas les plus intéressants du monde, parce que, ok, la bouteille, elle est décomposée, on ne la voit plus, mais le plastique qui la constitue est quand même bien quelque part. Cette matière n'a pas disparu, elle n'a pas été métabolisée, c'est du plastique, il y a peu de chances qu'il soit métabolisé, donc cette matière, elle est quand même bien là quelque part. Donc il faut bien le prendre d'une manière globale. Sur la nature hybride des objets, on peut interroger aussi, par exemple, sur la laisse de mer, le bouchon de liège qu'on trouve. J'avais pour habitude, en tant qu'animatrice, de demander aux élèves souvent de trier, récupérer et récolter tout ce qu'ils trouvaient sur la laisse de mer. On leur demandait de trier ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Alors au début, c'est facile, l'algue d'un côté, la bouteille en plastique de l'autre, tout va bien. Et là où ça peut commencer à se compliquer, c'est sur le bouchon en liège. Ils disent, bah ouais, mais c'est le bouchon, c'est la bouteille, ce n'est pas naturel. Et l'autre dit, ouais, mais c'est du liège, c'est l'arbre qui l'a produit, c'est un morceau d'arbre, c'est naturel. Donc déjà là, on est sur un objet qui est hybride, qui est entre les deux. Et puis on peut pousser un petit peu plus loin. On prend notre matière, notre bouteille en plastique qui s'est décomposée et qui, du coup, le plastique est rentré dans la chaîne alimentaire. Et le poisson qui nage en pleine eau, que l'on va s'apprêter à pêcher et qui a mangé, qui a été contaminé par le plastique dans la chaîne alimentaire, lui, est-ce qu'il est encore naturel? Voilà. Et enfin, la nécessité d'une approche multidimensionnelle, on l'a vu tout à l'heure, quand on agit sur un aspect, si on reprend notre exemple avec les émissions de CO2 qu'on veut éradiquer avec du nucléaire, ça nous repose d'autres problèmes auxquels on n'avait pas pensé. On est obligé de penser d'une manière multidimensionnelle. Tout ça pour les élèves de grande section, on est prêt. Ça va être simple. Alors là, du coup, on va essayer de réfléchir sur ce qu'est un déchet. Prends un exemple classique, un utilisateur A, un objet, il l'utilise, il décide dans la zone intermédiaire qu'il n'en a plus besoin et il décide que cet objet est maintenant devenu pour lui un déchet, il n'en a plus besoin. Dans le cas numéro 2, on a notre individu A, de la même façon, il utilise son objet, il décide qu'il n'en a plus besoin, mais là, B lui dit, attends, chut, moi, ton truc, j'en veux bien, j'en ai l'utilité, je sais quoi faire avec. Donc ce qui était un déchet pour A ne l'est pas pour B, ça redevient utile à B. Donc il y a un moment comme ça où l'objet est à cheval un peu entre le déchet et l'objet. C'est un moment... Voilà, on a appelé ça un déchet subjectif, c'est-à-dire ça dépend de la vision de chacun. C'est comme la bouteille d'eau que vous avez utilisée. Est-ce que si je l'ai laissée 24 heures dans ma voiture, c'est fichu, c'est contaminé, je vais mourir si je la bois et je la mets à la poubelle ou tout compte fait, je vais peut-être pouvoir m'en servir et éviter de racheter une autre bouteille d'eau. Le but du jeu, c'est de faire réfléchir nos élèves en leur posant des problèmes. Donc là, essayer de partir d'un mode de pensée de Michel Fabre qui amène à problématiser. Donc à gauche, il y a ce qu'il appelle la position du problème, la question qu'on se pose. Tout à droite, la résolution, la solution qu'on va trouver. Donc, tout serait simple si on pouvait aller en ligne droite de la question à la réponse. Seulement, on doit prendre, on réfléchit dans un cadre de pensée donné, et du coup, nous sommes soumis à des conditions, des choses auxquelles on ne peut pas déroger, et il y a des éléments dont on va tenir compte, ce sont les conditions du problème. Là, c'est peut-être encore un petit peu flou, on va le voir concrètement avec un exemple. Donc là, on va le prendre avec notre histoire de déchets, ce problème. Donc, on a vu à l'instant qu'un déchet pouvait être plus ou moins, selon les individus, être connu ou non comme un déchet. Donc la question qu'on se pose, c'est à quelles conditions les déchets des uns sont les ressources des autres? Dans les conditions du problème, tout là-haut, on a vu que les objets doivent être transmis entre usagers afin de conserver leur statut de ressource. Il n'y a que comme ça, c'est parce que A peut donner son objet à B que cet objet reste un objet et qu'il ne devient pas un déchet. Mais dans les difficultés, dans les données du problème, c'est que il y a des contraintes qui interviennent dans le fait de transmettre des objets entre usagers. On a par exemple, en tout cas, moi, dans mes placards, il y a pas un paquet de trucs que j'ai gardé pour le donner, les vêtements trop petits aux petits cousins, les vieux câbles informatiques que je n'ai jamais compris à quoi ils pouvaient me servir, mais je les ai dans un tiroir, je ne les ai pas mis à la poubelle. Un jour, il va falloir quand même que j'en fasse quelque chose parce que les placards vont être pleins. Donc voilà, il va falloir ou trouver les petits cousins à qui donner ou les amener quelque part, mais j'ai quelque chose à faire avec. Il va falloir que je sois active là-dessus, ça ne va pas se faire tout seul. Quand on arrive à résoudre cette difficulté-là, effectivement, on peut passer l'objet et cet objet doit être conditionné par le fait qu'on puisse toujours le conserver comme étant une ressource. Donc, pour que ce soit toujours une ressource, on a essayé de se mettre devant de faire l'exercice qu'on allait demander à nos élèves. Imaginez un monde sans poubelle, et ben, on y va, nous, en tant qu'adultes. Donc là, on a repris une façon de penser de Christian Orange, qui est un copain de Fabre, hein, où il raisonne comme ça, en conditions, en contraintes, etc. Avec d'un côté, donc en bas, le but du jeu, c'est qu'on ne veut pas produire de déchets et nous faut donc un recyclage illimité des matériaux. Et essayer de réfléchir à chaque fois à ce que ça engendrait. Là, on ne va pas décortiquer toutes les flèches, mais on peut en faire un ou deux. Donc en bas à gauche, on s'est dit pas de production de déchets, ça veut dire que par exemple, on n'a pas de déchets agroalimentaires. Donc qui dit pas de déchets agroalimentaires, ça veut dire qu'on n'a aucun gaspillage alimentaire. Donc pour avoir aucun gaspillage alimentaire, il faut qu'on ait tout en haut dans le registre du concret, de l'empirique. Ça veut dire qu'il faut que la production et la vente agricole soient locales. Parce que si je transporte mes tomates, il y a de grandes chances que j'en perde. Donc il faut qu'elles soient à proximité. Par contre, si je veux avoir une production locale, ça veut dire qu'il me faut un espace cultivable proche. Là, nous, à Caen, bon, c'est pas trop compliqué, ça, mais si on se remet dans un espace à Paris, ça devient un peu plus compliqué de se dire ça. Ça veut aussi dire que si on veut aucun gaspillage alimentaire, qu'il faut qu'on puisse vendre et acheter en vrac pour éviter les emballages. Ça veut dire qu'il faut qu'on cuisine et qu'on fabrique chez soi à partir de produits bruts pour éviter à nouveau les déchets. Mais cuisiner à partir de produits bruts, c'est aussi des contraintes pour la famille, est-ce que je vais pouvoir les accepter ou non. Donc ça, si on le remultiplie, fait qu'on voilà, on met un peu des flèches dans tous les sens et pas produire de déchets, en fait, c'est pas si simple. Donc ça, c'était nous, notre réflexion en tant qu'adultes. Ce qui nous intéressait, c'est de voir ce que des enfants de grande section pouvaient trouver comme solution. On avait émis deux hypothèses, un peu deux niveaux dans la pensée des enfants. On se disait, a priori, qu'il y aurait les enfants qui comprendraient, qui arriveraient à saisir que les déchets qui sont abandonnés sont transportés et que ça pose des problèmes à l'environnement et que donc il faut les stocker. C'est une histoire de noisette à la plage, il faut stocker, il faut contraindre les déchets. Et qu'il y a, on espérait, des enfants qui allaient passer un stade au-dessus et se dire « Ah ouais, ok, mais les stocker, c'est pas suffisant. Il faut même qu'on limite notre production de déchets et qu'ils nous donnent des solutions pour limiter la production de déchets. » On attendait ces deux réponses-là. Alors, ce qu'on leur a proposé, c'est un protocole en 7 étapes. Donc, on l'a posé aux élèves, on leur a demandé, donc c'est tout en haut en jaune, la consigne, d'imaginer un monde sans poubelle. Et tout nous le dessine. Donc c'est ce qu'on a, on a recueilli, les dessins des élèves, ce qu'ils avaient imaginé comme monde sans poubelle. Ensuite, on est allé sur le terrain, où on a pu observer le cycle de l'eau. On a fait ce qu'on appelle une classe d'eau, c'est un dispositif pendant une semaine, pendant lequel on sort les élèves de la classe, on va sur le terrain, on va observer les fleuves, les rivières, les stations d'épuration, enfin voilà, on sort. On va voir, on parle que d'eau et que de cycle de l'eau. Donc on fait cette semaine ensemble et en revenant de cette semaine, à partir de ce qu'ils ont fait sur le terrain, on leur demande d'échanger entre eux sur les dessins qu'ils avaient faits au début. En disant voilà, un tel, il avait proposé telle solution, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors voilà, il y avait des échanges, moi je vois pas ça comme ça, etc. On les amenait à s'exprimer, à exprimer leur raisonnement sur les situations. Ensuite, on a explicité la classe d'eau, c'est-à-dire qu'on est revenu sur tout ce qu'on avait vu. On avait laissé dans la phase précédente, on avait laissé les enfants, ok, vous vivez l'expérience, on n'en dit rien de plus, qu'est-ce qui en ressort ? Et là, on se pose en classe, on réexplique, on remet les enjeux, et on leur demande à nouveau d'échanger sur les idées des copains. Et enfin, on dit, bah, ok, on a beaucoup discuté entre nous, on est allé voir sur le terrain. Alors maintenant, ok, toi, c'est quoi ta solution pour vivre dans un monde sans poubelle? Et là, ils nous font leur dernier dessin. Et donc, nous, on a récupéré le dessin du début, les échanges des deux conversations, des deux niveaux d'échange, et les dessins de la fin. Et ce qu'on espère, évidemment, c'est qu'il y ait une évolution entre le premier dessin et le dernier dessin. Donc voilà les solutions finales. Les solutions initiales, en résumé, on a avec des solutions beaucoup où, pour certains élèves, une minorité, on abandonne le déchet, on éloigne le déchet, on le met dans la nature, grosso modo, certains. Et sinon, la plupart des solutions, c'est du stockage. Alors, sous plein de formes. En fait, alors on ne stocke pas dans la poubelle, ils ont bien compris la consigne. On stocke dans la cave, on stocke dans la maison, on stocke à la déchetterie, on stocke dans un grand trou, voilà. Mais grosso modo, on stocke. En solution finale, bah là, on stocke. Hein. Il y a des camions qui amènent les déchets et on les met dans un grand trou. On stocke aussi, mais on stocke à la déchetterie d'une façon un peu plus organisée. Alors, les enfants m'expliquaient leur dessin. Je n'ai pas réussi comme ça à deviner le fond de leur pensée à travers les dessins. Et puis, il y a ceux qui fabriquent des nouveaux objets à partir de la matière. On récupère les déchets, on fait de nouveaux objets. Je ne peux pas vous dire, on reconnaît la bouteille d'eau, mais voilà, il y en a qui avaient entendu des histoires de fauteuils faits à partir d'objets recyclés, etc. Et puis, voilà, il y a des propositions bien à part, comme celle-là, où là, c'est on les envoie dans l'espace. Alors bon, dans le cadre du mémoire, ça, c'est quand même le dessin qui nous met un peu dans l'embarras, parce qu'on a quand même fait un paquet de choses, on a vu plein de choses. Et lui, ce qu'il retient, cet élève, c'est qu'on va envoyer ça dans l'espace. Donc, le dessin, on le met bien en dessous. Et on ne le traite pas. On ne le met pas dans les données d'analyse du mémoire. Parce que celui-là, il n'est pas gérable. Bon, mémoire se passe. On travaille sur les autres productions. Et puis cette deuxième aussi. On en reparlera plus tard. Par contre, on peut noter que les dessins, a posteriori, qu'ils sont vraiment bien faits. C'est pas pour rien qu'il y en a une qui a les yeux grands ouverts à gauche, l'autre a un simple trait. Il y en a un qui a le corps bien rempli, l'autre c'est un bonhomme bâton. Il y en a un qui a un cœur et pas l'autre. Il y en a un qui a bonne mine et pas l'autre. C'est pas par hasard. Mais bon, ces deux dessins-là, pourtant c'était des élèves qui avaient bien suivi, qui s'étaient impliqués, mais la solution proposée, je la comprends pas, je la planque. Et grosso modo, si on analyse les productions des élèves, on se retrouve avec, non pas deux niveaux, mais quatre niveaux différents de solutions. Alors, en blanc, on a appelé ça l'abandon du déchet. Ce n'était pas proposé par les élèves, mais l'expérience de la vie courante fait que je l'ai malgré tout rajouté parce qu'il existe. Donc, l'abandon, c'est je me promène dans la rue, je suis en train de fumer une cigarette, elle est finie, voilà, j'écarte les deux doigts, le mégot tombe, et c'est bon, je l'ai abandonné. Alors, ce qui explique que je l'abandonne, si on reprend, donc on est toujours dans mon losange de problèmes de Fabre, on essaye de comprendre ce qui fait que j'ai pris la décision, qu'elle soit consciente ou inconsciente, de l'abandonner. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en rouge. On a essayé de classer un peu les éléments qui étaient pris en compte dans notre problème, soit des éléments qui faisaient appel à des connaissances en physico-chimie, soit la conscience d'enjeu, ou soit les valeurs personnelles qui étaient en jeu. Donc, par exemple, l'enjeu, quand j'abandonne un déchet, la responsabilité, je ne l'engage pas trop. Ce n'est pas de ma responsabilité, le mégot. Il va tomber, je l'abandonne, il va tomber par terre, mais en même temps, le ramasser, c'est le boulot des agents de la commune, de les ramasser. Ce n'est pas à moi de le... Voilà, moi, je l'abandonne à eux de le ramasser. Avec des valeurs d'égoïsme, moi, je m'en fiche que ce soit crado par terre, ce n'est pas mon problème. Et d'autres enjeux sur les besoins humains, parce que moi, j'ai besoin de ma dose de nicotine. Donc tout le reste, c'est un besoin physiologique. Et puis, je ne trouve pas ça si sale dans la rue. Deuxième étape, c'est l'éloignement du déchet. Donc là, c'était un dessin fait par une élève, le premier dessin qu'elle a produit. L'éloignement, on l'a retrouvé que dans au tout début de la situation. Donc là, on met les déchets dans l'eau. Okay. Elle avait évolué, c'est pas ce qu'elle a reproposé à la fin. Donc l'éloignement, si on le remet dans notre histoire de losange, ça veut dire que le sujet se dit « Ah ouais, mais alors moi, garder le mégot à la main ou près de moi, ça sent quand même super mauvais la cigarette froide, donc je vais l'écarter de moi. Je vais le balancer par la fenêtre de ma voiture pour qu'il ne salisse pas ma voiture. » En plus, c'est quand même pas terrible, hein, les odeurs. J'ai mes enfants derrière, il faut que je l'écarte. Et c'est de l'altruisme, hein, je vais penser à mes enfants, aux autres personnes dans la voiture. Et puis, voilà, c'est sale. Et puis moi, je n'ai pas envie de vivre avec des mégots à côté de moi. Donc, je les écarte. Ou je le mets dans le caniveau pour qu'il soit vite évacué. Troisième niveau de problématisation, on se dit, ah ok, les déchets, les mégots, ça interagit avec l'environnement. Si je le laisse dans le caniveau, un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, donc il ne faut pas que je le laisse dans le caniveau. C'est moi qui ai fumé, faut que je fasse, c'est ma responsabilité de gérer ce mégot pour l'intérêt de tous et puis pour la santé de tous. Hop là. Voilà. Donc, on va le confiner à part. Je vais le mettre dans le cendrier de la voiture aussi. Quatrième étape, ok. Alors là, mon mégot, ok, on peut le stocker, mais il prend de la place. Et puis, dedans, c'est fait en matière plastique, c'est compliqué. Donc, je vais plutôt utiliser, je vais me faire des cigarettes que je vais rouler moi-même avec des mégots recyclables. Parce que j'ai bien compris qu'on ne pourrait pas indéfiniment stocker les mégots de tout le monde parce que l'espace est fini, que la matière, il y a une quantité finie, donc autant qu'on s'en serve à faire autre chose qu'à faire des mégots, et puis que j'ai quand même malgré tout besoin de fumer et que je ne veux pas me freiner dans ma consommation de tabac, mais je vais adapter pour pouvoir répondre à ces difficultés-là. Et je vais penser aux autres et aux autres nécessités de matière. Et enfin, le dernier niveau, ah oui, mais alors le tabac que je fume, pour ça, on utilise, pour le faire pousser à l'autre bout du monde, on utilise sans doute des pesticides et puis on l'importe, donc on le fait partir dans des bateaux, donc du coup, ça consomme du carburant. Alors, bon, bah là, du coup, je pense que j'arrête de fumer là. Si je prends tout en compte, là, si je veux vraiment être dans une optique de réduction de déchets, je suis forcément obligée d'arrêter de fumer. Donc notre élève dans tout ça, parce que là on a pris des exemples d'adultes, mais notre élève dans tout ça, qui veut envoyer les déchets dans l'espace, il se situe où ? Entre l'éloignement et le stockage, quoi. Niveau 2 ou 3. Bon, par rapport à tout ce qu'il montrait dans les échanges, c'est décevant. Mais en allant rechercher dans les échanges qui ont été enregistrés, et donc dans les transcriptions des échanges, on a quand même retrouvé des éléments qui pouvait être intéressant. Donc, il s'appelait, on l'a surnommé Logan. Et au début, hein, les premières fois qu'il y avait des échanges, il nous dit « C'est bien de mettre tous les déchets dans la cave, parce que comme ça, ça ne va pas inonder la ville de déchets s'il n'y a pas de poubelle. » Ok, il y a un élève qui ne sait pas trop, mais lui, voilà. Parce qu'après, les nettoyeurs, ils vont s'énerver à nettoyer les déchets. Donc, il y a quand même des valeurs qui sont engagées. Après, il évolue. Il nous parle plus de stockage dans un trou. Alors toi, c'était quoi ton idée ? Ben moi, c'est de faire, de mettre les déchets dans un énorme trou qui fait un mètre, comme ça. Bon, lui, un mètre de grande section. Hein, donc faut... Comme ça, on met tous les déchets, on le rebouche. Dès qu'il y a des déchets, on le rebouche après. Donc là, voilà, on contraint les déchets. Puis continue. Ouais, en fait, bon, ben ça, sinon, ça va être tout sale. Et puis sous la maison de Logan, même dans une cave, c'est beaucoup mieux parce que si elle est très grande, la cave, eh ben on peut... Alors, non, on peut quoi ? Ben, alors, il y a un autre élève qui dit, bon, on peut mettre tous les déchets. Ouais. Et puis Logan, il dit, ouais, mais quand elle est remplie à moitié, la cave, ça commence à l'inquiéter quand même. Alors, l'autre dit, ben, c'est bon, il y a l'autre moitié, puis elle est grande, lui répond l'autre. Ouais, puis elle est longue, très longue, on commence à discuter. Mais lui, quand elle est remplie, on ne peut plus mettre de déchets. Il commence à comprendre les limites du stockage. Alors, il y en a un qui dit, oui, mais quand c'est plein, grosso modo, le dernier élève lui dit, quand c'est plein, on vient la vider, et puis c'est bon. Et on ne se pose pas de question de comment on va vider cette cave et où va partir toute cette matière. Logan, lui, il reste un peu bloqué. Il a bien compris qu'il y avait des limites au stockage. Et puis, on retrouve encore après. Ouais, ben les maisons, c'est pas mieux parce qu'après, les gens, ils veulent déménager puis ils ont plein de déchets dans la maison. La réponse à ceux qui veulent stocker dans leur cave. Voilà. Ouais, mais les mettre quelque part qui sert à quelque chose. Ok, là, ils pensent déchetterie. Bien. Et à la fin de la déchetterie, il n'en reste pas là. Oui, mais on a toujours ma question. Où on met les déchets quand ça va dans une déchetterie? Lui, mettre la déchetterie, ça répond pas à sa question. Il se demande de ce qui se passe après. Il commence à s'énerver, là. Il y en a marre qu'on lui réponde pas. Bon, en fait, c'était que j'avais encore ma question à faire. Où ça va quand on met dans une déchetterie? Et là, on ne le sent pas à l'écrit, mais vraiment, il faut lui répondre. Là, je suis obligée de lui répondre, sinon je suis la pire des maîtresses. Donc, on lui explique que, on peut recycler. Il y a aussi des choses, des déchets dont on ne peut rien faire. Donc, on les met dans un grand trou qui est énorme et quand il est plein, on le bouche. Alors, et Logan rebondit, ouais, mais on le bouche comment? Ben, lui, on lui remet de la terre par-dessus. Oui, mais quand on recreuse au même endroit, il se projette dans le temps, que ce n'est pas une solution viable dans le temps. Les déchets qu'on met dans un trou, ben, si on le retrouve et qu'on recreuse au même endroit, ben ouais. Et puis là, je n'ai rien à lui répondre. Effectivement, ce n'est pas l'idée du siècle, hein, quand même. Donc, il reste avec ça. Et quand on lui demande sa solution, ben voilà, une fois, je t'avais dit qu'on pouvait les mettre dans l'espace. C'est quand même une bonne idée. Il avait bien senti que moi, je n'étais pas super partante pour ça. Mais lui, il n'a pas lâché son idée. Pourtant, j'essaye de lui revendre. Hein. Oui, mais tu m'avais dit une fois dans l'espace, et là, tu viens de me dire tout à l'heure qu'on essayait de s'en resservir. Ce serait drôlement bien, quand même. On essaye de lui vendre l'affaire. Non, 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 non. Et là, sa réponse, l'espace, ça dure à l'infini. Et le refaire, ça dure à l'infini. Mais quand même, l'espace, c'est mieux parce que l'espace, ça reste à l'infini. Et la raison, le recyclage, ça ne marche pas indéfiniment. On ne peut pas recycler tous les matériaux de manière indéfinie. Pour l'instant, l'espace, à ce que l'on sache, c'est infini. Alors quand même, pour la petite histoire, pour comprendre pourquoi lui, il est satisfait, c'est que envoyer les déchets dans l'espace, oui, il sait faire, parce qu'en même temps, on avait vu Thomas Pesquet en vidéoconférence avec les écoles, donc c'est quand même super méga simple, surtout qu'il a son copain qui a 500 euros dans sa tirelire pour payer l'avion, donc il n'y a vraiment aucune difficulté à cette solution. Donc, est-ce que sa solution relève du développement durable? Ben, il s'est engagé dans une réflexion individuelle. Il avait une première idée. Il a posé des questions. Il a cherché, il a innové sur d'autres solutions. Il a comparé ces deux solutions entre le recyclage ou envoyé dans l'espace. Et il en a tiré des conclusions. C'est vraiment un engagement individuel. Il a pris en compte les contraintes. Alors, moi, j'en ai appelé ça environnementales et sociales. Mais il a réfléchi, il a bien compris qu'OK, il fallait stocker, mais que stocker, ça prenait de la place, que recycler, ce n'était pas une solution à l'infini. Et que là où nous, ça nous fait sourire, parce qu'évidemment, ça nous met en orbite des déchets, alors qu'on a déjà du mal à envoyer des satellites sans qu'ils se fassent percuter par les déchets qui y sont déjà, que ça consomme en énergie un truc de fou, et que les ressources qu'on a sur Terre, si on les envoie dans l'espace, on les aura plus sur Terre. Mais ça, en grande section, c'est encore pas accessible pour lui. Donc en fait, oui, c'est peut-être le seul élève qui, en fait, avait une solution réellement de développement durable. C'est peut-être le seul élève qui a bénéficié de ce que l'on a fait. Les autres, ils ont entendu, ils savent ce qu'il faut faire, mais pourquoi il faut le faire, on n'est pas sûr qu'il l'ait vraiment bien saisi. Lui, on est un peu plus sûr. Et notre proposition décalée de tout à l'heure, donc là, la solution d'Amandine, eh ben, en fait, on met dans une boîte de conserve. Ah bon, mais ils sont dans une boîte de conserve. Oui, 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 après, on les donne à des gens, après, ils les mangent, après... Enfin, il faut leur dire que c'est des bonbons. Après, ils les mangent et après, ils sont morts. Et après, on les met dans leur bouche. OK, bon, on tue les gens avec les déchets pour ensuite pouvoir les remplir de déchets? Ah oui, affirmatif. On va pouvoir conclure sur Amandine. Ça paraît... Oui, ça reste... pour Amandine, ça paraît comme ça un peu saugrenu. Et ça n'est peut-être pas tant que ça.
Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions.
On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement?
Mais non, 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 trop cher.
Ou faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement.
Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures.
Et les embarquer vers un pays m'en regardant.
Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace?
Et si on les faisait avaler aux gens?
Avaler? Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte.
Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups.
Mais ça se présenterait comment, votre truc, là?
Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être.
Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette.
Et ça va nous coûter combien, votre affaire?
Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.